Nous avons vu que le pécheur est pécheur parce qu'il est né pécheur et non parce qu'il a commis des péchés. Nous avons vu aussi que je ne peux pas, en améliorant ma conduite, faire de moi-même autre chose qu'un descendant d'Adam, donc un pécheur. Nous avons vu dans Romains 5, 19, de même que par la désobéissance d'un seul homme, Adam, tous les autres ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, Christ, tous les autres seront rendus justes. Un verset d'une rare puissance. Nous avons vu aussi que vous êtes par lui dans le Christ Jésus. Dieu lui-même nous a mis en Christ. Et ce qu'il a fait à Christ, il l'a fait à la race tout entière. C'est ce que nous allons développer encore aujourd'hui. En Adam, nous recevons tout ce qui est d'Adam, le péché. En Christ, nous recevons tout ce qui est de Christ, la justice. Aujourd'hui, nous allons voir le chemin du progrès, savoir. Notre vieille vie se termine à la croix. Notre vie nouvelle commence à la résurrection. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. La croix met fin à la première création et de la mort sort une nouvelle création en Christ, le second homme. Si nous sommes en Adam, tout ce qui est en Adam nous est forcément transmis. Tout cela devient nôtre, automatiquement, car nous n'avons rien à faire pour nous l'approprier. Nous n'avons pas besoin de prendre une décision pour nous mettre en colère ou pour commettre un autre péché. Cela nous arrive spontanément et malgré nous. De la même manière, si nous sommes en Christ, tout ce qui est en Christ est à nous par pure grâce, sans aucun effort de notre part, mais sur la base de la simple foi. Mais dire que tout ce dont nous avons besoin est à nous en Christ, par pure grâce, bien que cela soit vrai, peut paraître dépourvu de réalisme. Comment cela se fait-il pratiquement? Comment cela devient-il réel dans notre expérience? En étudiant les chapitres 6, 7 et 8 des Romains, nous allons voir qu'il y a quatre conditions nécessaires à la vie chrétienne. Ce sont, premièrement, savoir. Deuxièmement, se considérer comme. Troisièmement, s'offrir à Dieu. Enfin, quatrièmement, marcher selon l'Esprit. C'est dans cet ordre qu'elles sont présentées. Si nous voulons vivre cette vie, il nous faudra faire ces quatre pas. Non pas un, ni deux, ni trois seulement, mais tous les quatre. À mesure que nous étudierons chacun d'eux, nous nous confierons au Seigneur pour qu'il illumine notre intelligence par son Saint-Esprit. Et nous lui demandons maintenant son secours pour faire le premier grand pas. Notre mort avec Christ est un fait accompli. Le passage qui est devant nous maintenant est Romains 6, versets 1 à 11. Romains 6, versets 1 à 11. Que dirons-nous donc? Que nous devons demeurer dans le péché? Non, certes. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ou bien ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Sachant bien que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que ce corps de péché soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car s'il est mort, il est mort pour le péché, une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, il est vivant pour Dieu. Vous donc aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Dans ces versets, il nous est montré clairement que dans sa mort, le Seigneur Jésus a été notre représentant et qu'il nous y a tous englobés. Dans sa mort, nous sommes tous morts. Aucun de nous ne saurait progresser spirituellement sans comprendre cela. De même que nous ne pouvons être justifiés si nous n'avons pas vu qu'il a porté nos péchés sur la croix, ainsi nous ne pourrons réaliser la sanctification si nous n'avons pas vu qu'il nous a porté, nous, sur la croix. Non seulement nos péchés ont été mis sur lui, mais nous-mêmes, nous avons été mis en lui. Comment avons-nous reçu le pardon ? Nous avons compris que le Seigneur Jésus était mort comme notre substitut, qu'il avait pris sur lui nos péchés et que son sang a été versé pour nous laver de notre souillure. Lorsque nous avons vu que nos péchés avaient été effacés sur la croix, qu'avons-nous fait ? Avons-nous dit « Seigneur, je t'en prie, viens mourir pour mes péchés ?» Non, nous ne lui avons rien demandé. Nous avons simplement remercié le Seigneur. Nous ne l'avons pas supplié de venir mourir pour nous, car nous avions compris qu'il l'avait déjà fait. Or, ce qui est vrai de notre pardon est aussi vrai de notre délivrance. L'œuvre est accomplie. Il ne s'agit plus de demander, mais seulement de louer. Dieu nous a tous mis en Christ, de sorte que lorsque Christ a été crucifié, nous avons été crucifiés nous aussi. Nous n'avons donc plus besoin de demander « Moi, qui suis une créature si mauvaise, Seigneur, je t'en prie, crucifie-moi. » Ce serait faux. Nous n'avons pas prié au sujet de nos péchés, pourquoi prier maintenant au sujet de nous-mêmes ? La question de nos péchés a été réglée par son sang et celle de notre nature a été réglée par sa croix. C'est un fait accompli. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de louer le Seigneur de ce que quand Christ est mort, nous sommes morts nous aussi. Nous sommes morts en lui. Louons-le pour cela et vivons à cette lumière. Croyons-nous en la mort de Christ ? Naturellement, nous y croyons. Eh bien, cette même Écriture qui dit qu'il est mort pour nous, dit aussi que nous sommes morts avec lui. Relisons encore. Romains 5,8. Christ est mort pour nous. C'est la première déclaration et elle est bien nette. Mais les suivantes le seraient-elles moins ? Notre vieil homme a été crucifié avec Christ, Romains 6,6. Nous sommes morts avec Christ, Romains 6,8. Quand avons-nous été crucifiés avec lui ? Quelle est la date de la crucifixion de notre vieil homme ? Sera-ce demain ? Était-ce hier ou aujourd'hui ? Pour répondre à cette question, il nous sera peut-être utile de renverser les termes de la déclaration de Paul et de dire « Christ a été crucifié avec, c'est-à-dire en même temps, que notre vieil homme ». Quelques-uns d'entre nous, nous sommes arrivés ici à deux. Nous avons fait le chemin ensemble jusqu'ici. Nous pouvons dire « Mon ami est venu ici avec moi », mais nous pouvons dire tout aussi exactement « Je suis venu ici avec mon ami ». Si l'un de nous était arrivé ici il y a 3 jours et l'autre seulement aujourd'hui, nous ne pourrions pas parler ainsi. Mais puisque nous sommes arrivés ensemble, nous pouvons exprimer ce fait d'une manière ou de l'autre avec une vérité égale, puisqu'il s'agit du même fait. De même, aussi, au sujet du grand événement historique, nous pouvons dire avec un plein respect mais avec la même exactitude « J'ai été crucifié lorsque Christ a été crucifié ». Ou bien « Christ a été crucifié quand j'ai été crucifié ». Car ce ne sont pas deux événements séparés dans l'histoire, mais un seul. Ma crucifixion a eu lieu avec lui. Christ a-t-il été crucifié ? Alors peut-il en être autrement de moi ? Et s'il a été crucifié il y a près de 2000 ans, et moi avec lui, puis-je dire que ma crucifixion aura lieu demain ? La sienne peut-elle être dans le passé ? Tandis que la mienne serait dans le présent ou le futur. Que le Seigneur soit loué. Lorsqu'il mourut sur la croix, je suis mort avec lui. Non seulement il mourut à ma place, mais il m'a porté avec lui à la croix. Lorsqu'il mourut, je mourus aussi. Et si je crois à la mort du Seigneur Jésus, je puis croire à ma propre mort avec autant de certitude que je crois à la sienne. Pourquoi croyons-nous que le Seigneur est mort ? Sur quoi fondons-nous notre foi ? Est-ce parce que nous sentons qu'il est mort ? Non, nous ne l'avons jamais senti. Nous le croyons parce que la parole de Dieu le dit. Lorsque le Seigneur a été crucifié, deux brigands ont été crucifiés en même temps que lui. Nous ne doutons pas non plus qu'ils ont été crucifiés avec lui parce que les Écritures le disent clairement. Nous croyons à la mort du Seigneur Jésus et nous croyons à la mort des deux brigands avec lui. Alors, qu'en est-il de notre propre mort ? Notre crucifixion est plus intimement liée à la sienne que la leur. Ils ont été crucifiés en même temps que le Seigneur, mais sur des croix différentes, tandis que nous avons été crucifiés avec lui, sur la même croix, car nous étions en lui lorsqu'il est mort. Comment pouvons-nous le savoir ? Nous pouvons le savoir parce que Dieu l'a dit et que c'est une raison suffisante. Cela ne dépend pas de nos sentiments. Si nous sentons que Christ est mort, il est mort. Et si nous ne sentons pas qu'il est mort, il est mort. Si nous sentons que nous sommes morts. Et si nous ne sentons pas que nous sommes morts, nous sommes cependant et tout aussi sûrement morts. Ce sont des faits d'ordre divin. Que Christ soit mort, c'est un fait. Que les dieux brigands soient morts, c'est un fait. Et que nous soyons morts, c'est aussi un fait. Laissez-moi vous le dire, vous êtes morts. C'en est fait de vous-même. Vous avez été mis de côté. Ce moi dont vous avez horreur est sur la croix en Christ. Et celui qui est mort est libéré du péché. Romains 6, verset 7. C'est cela l'évangile pour les chrétiens. Nous n'arriverons jamais à réaliser notre crucifixion par notre propre volonté ni par nos efforts, mais seulement en acceptant ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix. Il faut que nos yeux soient ouverts sur l'œuvre accomplie au calvaire. Peut-être quelques-uns d'entre nous, avant notre conversion, avons-nous essayé d'arriver au salut par nous-mêmes. Nous lisions la Bible, nous prions, nous allions à l'église, nous faisions des aumônes. Puis un jour, nos yeux se sont ouverts et nous avons vu qu'un salut parfait avait déjà été acquis pour nous sur la croix. Nous l'avons simplement accepté, nous avons remercié Dieu et la paix et la joie ont inondé notre cœur. Or, le salut et la sanctification reposent exactement sur la même base. Nous recevons la délivrance du péché de la même manière que nous recevons le pardon des péchés. Car les voies de Dieu pour nous délivrer du péché sont entièrement différentes des voies de l'homme. La voie de l'homme consiste à supprimer le péché en cherchant à le vaincre. La voie de Dieu consiste à mettre de côté le pécheur. Beaucoup de chrétiens se lamentent sur leur faiblesse, pensant que s'ils étaient plus forts, tout serait bien. L'idée que nous ne pouvons pas vivre une vie sainte à cause de notre faiblesse et que quelque chose de plus nous est demandé conduit tout naturellement à cette fausse conception du moyen de délivrance. Si nous sommes préoccupés par la puissance du péché et par notre incapacité à la surmonter, nous en concluons naturellement que pour remporter la victoire sur le péché, il nous faut avoir plus de force. Si seulement j'étais plus fort, disons-nous, je pourrais surmonter mes violents accès de colère. Et nous demandons au Seigneur de nous fortifier afin que nous puissions contrôler nos réactions. Mais cela est une grave erreur. Ce n'est pas le christianisme. Les moyens par lesquels Dieu nous délivre du péché ne consistent pas à nous rendre de plus en plus forts, mais à nous rendre de plus en plus faibles. C'est sûrement une manière plutôt singulière de nous amener à la victoire, mais c'est le chemin de Dieu. Dieu nous affranchit du pouvoir du péché, non pas en fortifiant notre vieil homme, mais en le crucifiant. Non pas en l'aidant à arriver à quelque chose, mais en le mettant hors d'action. Nous avons peut-être essayé durant des années, mais en vain, d'exercer un contrôle sur nous-mêmes. Et peut-être est-ce encore notre expérience aujourd'hui. Mais le jour où nous verrons la vérité, nous reconnaîtrons que nous sommes totalement impuissants pour arriver au résultat désiré. Mais nous verrons aussi que Dieu, en nous mettant de côté, a tout accompli. Une telle révélation met fin à tout effort humain et personnel. Le premier pas, donc, sachant bien que... La vie chrétienne normale doit commencer par savoir, de façon nette et précise, et non pas avoir simplement une certaine connaissance de la vérité ou la compréhension d'une importante doctrine. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais il faut que les yeux de notre cœur s'ouvrent pour voir ce que nous avons en Christ. Comment savez-vous que vos péchés sont pardonnés? Est-ce parce que votre pasteur vous l'a dit? Non, vous le savez tout simplement. Si je vous demande comment vous le savez, vous me répondrez simplement « je le sais ». Une telle connaissance nous est donnée par une révélation divine. Elle nous vient du Seigneur lui-même. Sans doute, le fait du pardon des péchés se trouve dans la Bible. Mais pour que la parole écrite de Dieu devienne pour nous une parole vivante, il a fallu qu'il nous donne, selon Éphésiens 1,17, un esprit de sagesse et de révélation qui nous apprenne à le connaître. Ce dont nous avions besoin, c'était de connaître Christ de cette manière, et il en est toujours ainsi. Il arrive toujours un moment où une connaissance plus profonde de Christ pénètre dans notre propre cœur. Nous la voyons dans notre esprit. Une lumière à lui dans notre être intérieur, et nous sommes pleinement convaincus de sa réalité. Ce qui est vrai du pardon de nos péchés n'est pas moins vrai de notre délivrance du péché. Une fois que la lumière de Dieu a jailli dans notre cœur, nous nous voyons nous-mêmes en Christ. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous l'a dit, ni même parce que Romains 6 le dit. C'est quelque chose de plus que cela. Nous le savons parce que Dieu nous l'a révélé par son esprit. Nous pouvons ne pas le sentir, nous pouvons ne pas le comprendre, mais nous le savons car nous l'avons vu. Une fois que nous sommes vus nous-mêmes en Christ, rien ne peut ébranler notre assurance de cette réalité bénie. Si nous demandons à plusieurs croyants qui sont entrés dans la vie chrétienne normale de nous raconter les expériences qu'ils y ont amenées, les uns parleront d'une expérience spéciale, les autres d'une autre. Chacun retracera le chemin particulier par lequel il a été conduit et citera un passage des Écritures pour souligner sa propre expérience. Malheureusement, beaucoup de chrétiens s'appuient sur l'expérience personnelle et sur leur passage favori pour lutter contre d'autres chrétiens. Le fait est que si les chrétiens peuvent entrer dans une vie chrétienne plus profonde par des chemins différents, nous ne devons pas considérer les expériences ou les doctrines qu'ils soulignent comme s'excluant mutuellement, mais plutôt comme se complétant. Une chose est certaine, c'est que toute expérience véritable et précieuse aux yeux de Dieu doit naître d'une nouvelle découverte de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est un critère sûr. Or, ici dans notre passage, l'apôtre fait dépendre toute chose d'une telle découverte. Sachant bien que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que ce corps de péché soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. La révélation divine est la base essentielle de la connaissance. Le premier pas que nous aurons donc à faire sera de rechercher auprès de Dieu une connaissance donnée par révélation. Une révélation non pas de nous-mêmes, mais de l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est de cette manière que Hudson Taylor, le fondateur de la mission intérieure en Chine, découvrit la vie chrétienne normale. Vous vous souvenez comment il nous parle du problème qui le tourmentait depuis longtemps? Comment vivre en Christ? Comment tirer du cep la sève pour qu'elle vive en lui? Car il savait qu'il devait avoir en lui la vie de Christ pour qu'elle paraisse à travers lui. Et il sentait qu'il ne la possédait pas, tout en voyant qu'il avait besoin d'être en Christ. « Je savais, écrivait-il à sa sœur, que si je pouvais seulement demeurer en Christ, tout irait bien. Mais je ne le pouvais pas. Plus il s'efforçait d'y parvenir, plus il s'en éloignait, jusqu'au jour où la lumière jaillit. La révélation se fit et il vit. Je pense que là est le secret. Non pas demander comment je puis tirer en moi-même la sève du cep, mais me souvenir que Jésus est le cep. La racine, la souche, les sarments, les rameaux, les feuilles, les fleurs, le fruit, tout en réalité. Il cite ensuite les paroles d'un ami qui l'avait aidé. Je n'ai pas à faire de moi-même un sarment. Le Seigneur Jésus me dit que je suis un sarment. Je suis une partie de lui-même et j'ai simplement à le croire et à agir en conséquence. Il y a longtemps que j'ai vu cela dans la Bible, mais je le crois maintenant. C'est une réalité vivante. C'est comme si quelque chose qui avait toujours été vrai devenait soudain vrai de manière nouvelle pour lui, personnellement. Il écrivit encore à sa sœur, « Je ne sais pas à quel point je pourrais me faire comprendre à ce sujet, car il n'y a là rien de nouveau, ni d'étrange, ni de merveilleux, et pourtant, tout est nouveau. En un mot, alors que j'étais aveugle, maintenant, je vois. Je suis mort et enseveli avec Christ, oui, et ressuscité aussi, et assis dans les lieux célestes. Dieu me considère comme tel, et me demande de me considérer comme tel. La joie de connaître cette vérité. Je prie afin que les yeux de votre intelligence soient illuminés et que vous puissiez connaître et goûter les richesses qui nous sont données en Christ. C'est immense de savoir que nous sommes en Christ. » Imaginons combien il serait bizarre de chercher à entrer dans une pièce où l'on se trouve déjà. Pensons combien il serait absurde de demander à y être introduit. Si nous reconnaissons le fait que nous sommes dedans, nous ne ferons plus aucun effort pour y entrer. Si nous avions une révélation plus profonde, nos prières seraient plutôt des louanges que des requêtes. Nous demandons beaucoup pour nous-mêmes parce que nous sommes aveugles à l'égard de ce que Dieu a accompli. Ni Tu Sang rapporte cette anecdote. Je me souviens d'un entretien que j'eus un jour avec un frère très préoccupé de son état spirituel. Il me dit « Il y a tant de chrétiens qui ont une vie belle et sainte. J'ai honte de moi-même. Je porte le nom de chrétien et cependant lorsque je me compare aux autres, je sens que je ne le suis pas du tout. J'aimerais connaître cette vie crucifiée, cette vie de résurrection, mais je ne la connais pas et je ne vois aucun moyen d'y parvenir. » Il y avait encore un autre frère avec nous et tous les deux, nous nous étions entretenus durant près de 2 heures avec cet homme en essayant de lui faire voir qu'il ne pouvait rien posséder en dehors de Christ, mais en vain. Notre ami dit alors « La meilleure des choses que puisse faire un homme, c'est de prier. » Mais si Dieu vous a déjà tout donné, qu'avez-vous encore besoin de demander ? Lui répondîmes-nous. Mais il ne m'a pas du tout tout donné, puisque je continue à me mettre en colère et à commettre toutes sortes de fautes. C'est pourquoi il faut que je prie davantage. Eh bien, lui demandons-nous, est-ce que vous recevez ce que vous demandez ? Je regrette de dire que je ne reçois rien du tout, répliqua-t-il. Nous sommes alors efforcés de lui montrer que de même qu'il n'avait rien fait pour sa justification, il n'avait rien à faire non plus pour sa sanctification. À ce moment-là, un troisième frère, dont le Seigneur s'était beaucoup servi, vint se joindre à nous. Il y avait sur la table une bouteille thermos. Le frère la prit et demanda « Qu'est-ce ceci ?»« Une bouteille thermos. » »« Bien. » »« Supposez un instant que cette bouteille puisse prier et qu'elle se mette à demander « Seigneur, j'aimerais tant être une bouteille thermos. Ne veux-tu pas faire de moi une bouteille thermos ?» Seigneur, fais-moi la grâce de devenir une bouteille thermos. Fais-le, je t'en prie. Qu'en diriez-vous ? Je ne pense pas que même une bouteille thermos puisse être aussi stupide, répliqua notre ami. Ce serait un non-sens que demander cela, elle est déjà une bouteille thermos. Eh bien, c'est exactement ce que vous faites, lui dit alors notre frère. Dieu, dans le passé, vous a déjà mis en Christ. Quand il est mort, vous êtes mort vous aussi. Lorsqu'il est ressuscité, vous êtes ressuscité, vous aussi. Vous ne pouvez donc plus dire aujourd'hui, je veux mourir à moi-même, je veux être crucifié, je veux avoir la vie de résurrection. Le Seigneur vous regarde et vous dit simplement, tu es mort. Tu as la vie nouvelle. Toute votre façon de prier est aussi absurde que celle de la bouteille thermos. Vous n'avez plus besoin de demander au Seigneur de faire quelque chose pour vous, vous avez simplement besoin que vos yeux s'ouvrent pour voir qu'il a tout accompli. C'est là le point essentiel. Nous n'avons pas besoin de faire des efforts pour mourir, nous n'avons pas besoin d'attendre notre mort, nous sommes morts. Nous n'avons besoin que de reconnaître ce que le Seigneur a déjà fait et de le louer pour cela. La lumière jaillit en cet homme et les larmes aux yeux, il dit « Seigneur, je te loue de ce que tu m'as déjà mis en Christ. Tout ce qui est à lui est à moi. » La révélation était venue et par la foi, il put s'en saisir. Et si vous aviez rencontré ce frère plus tard, quel changement vous auriez trouvé en lui. La croix va à la racine de notre problème. Laissez-moi vous rappeler encore la nature fondamentale de l'œuvre accomplie par le Seigneur sur la croix. L'on ne serait trop insisté sur ce point, car il est indispensable que nous le voyions. Supposons que le gouvernement de notre pays veuille traiter radicalement la question de l'alcoolisme et décide l'établissement du régime sec dans tout le pays. Comment cette décision pourrait-elle être appliquée pratiquement? Quelle aide pourrions-nous apporter? Si nous allions chercher dans tout le pays, dans tous les débits de boissons et les magasins, toutes les bouteilles de vin, de bière ou de liqueur, pour les prendre et les briser, cela résoudrait-il le problème? Certainement pas. Nous pourrions débarrasser le pays de chaque goutte d'alcool qui s'y trouve, mais derrière ces bouteilles de boissons alcooliques, il y a les distilleries qui les fabriquent et les brasseries et les caves qui les procurent. Et si nous ne touchons qu'aux bouteilles en laissant de côté les sources de fabrication, la production continuera et il n'y aura pas de solution définitive à ce problème. Les maisons qui les produisent, les brasseries et les distilleries doivent être fermées dans tout le pays pour mettre fin une fois pour toutes à ce problème de l'alcoolisme. Nous sommes la fabrique. Nos actions sont les produits. Le sang du Seigneur Jésus a réglé la question des produits, c'est-à-dire de nos péchés. La question de ce que nous avons fait est ainsi réglée devant Dieu. Mais Dieu se serait-il arrêté là? Qu'en est-il de la question de ce que nous sommes? C'est nous qui avons produit nos péchés. Ils ont été mis de côté, mais qu'en sera-t-il de nous? Croyons-nous que le Seigneur veuille nous purifier de nos péchés et nous laisser ensuite le soin de nous débarrasser de cette fabrique que nous sommes et qui produit les péchés? Croyons-nous qu'il veut mettre de côté les produits en nous laissant la responsabilité de la source de production? Poser cette question, c'est y répondre. Dieu n'a pas fait la moitié de l'œuvre en abandonnant l'autre moitié. Non, Dieu a fait disparaître les produits et il a aussi détruit la source d'où ils provenaient. L'œuvre accomplie par Christ est réellement allée jusqu'à la racine de notre problème et l'a résolue. Pour Dieu, il n'y a point de demi-mesure. Sachant bien, dit Paul, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que ce corps de péché soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, 6. Sachant cela, oui, mais le savons-nous? Ou l'ignorons-nous? Romains 6, 3. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous ouvre les yeux. Je reviens sur les points principaux. Notre mort avec Christ est un fait accompli. Ce qui est vrai de notre pardon est vrai aussi de notre délivrance. L'œuvre est accomplie. Il ne s'agit plus de demander, mais seulement de louer. Nous n'arriverons jamais à réaliser notre crucifixion par notre volonté, ni par nos efforts, mais seulement en acceptant ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix. Il faut que nos yeux soient ouverts sur l'œuvre accomplie au calvaire. La voie de l'homme consiste à supprimer le péché en cherchant à le vaincre. Mais la voie de Dieu consiste à mettre de côté le pécheur. Nous demandons beaucoup pour nous-mêmes parce que nous sommes aveugles à l'égard de ce que Dieu a déjà accompli. Sachant bien, dit Paul, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que ce corps de péché soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. »